Bonjour à tous, bon matin, mardi 12 juin 2018. Il fait beau, il fait bon dehors, les festivals battent leur plein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire un tour au Francofolie ces derniers jours. Ça a commencé depuis la semaine passée, là, jeudi, vendredi. J'en ai pour ma part bien profité cette fin de semaine et je ne saurais comment vous dire à quel point il faut en profiter. Il y a plein de belles choses, de concerts gratuits. Courez-y, on a même la chance parfois de rencontrer les artistes, j'ai pu faire quelques belles rencontres pour ma part, courez aux Francofolies. Ce matin, nous parlerons articles pour débuter, nous aurons de la musique également avec Jean-Sébastien Laliberté comme d'habitude. Et puis moi, je suis allé picorer ici et là dans l'actualité, des nouvelles insolites, des nouvelles étranges parfois, qui en tout cas sont amusantes et intéressantes même. Nous parlerons par exemple aujourd'hui de cette vache qui a réussi à éviter à l'abattoir grâce à une fugue. Ben oui, il fallait y penser. Également, nous parlerons de chips de crevettes un peu particulières et qui vont aider la planète, je l'espère. Nous parlerons du G7 qui s'est tenu la semaine passée, il y a quelques jours là, ici au Québec. Et puis également, plein de petites nouvelles. Est-on à Toronto ou à Montréal ? Ferrari ne sait pas trop. Nous parlerons également des toilettes d'avion. Ça peut poser problème, vraisemblablement, parfois, quand ça tombe du ciel. Je ne vous en dis pas plus. On découvre tout ceci ensemble, dans quelques instants, dans les voies de service. Et commençons cette émission en nous rendant en Bulgarie. On fait souvent le tour du monde avec les insolites, mais il y a ces pays où on ne va pas souvent. Je suis content qu'ils animent l'actualité parfois, surtout pour ce genre de nouvelles. La Bulgarie, la vache fugueuse de Bulgarie, échappe à l'abattoir. Penka, une vache bulgare vouée à l'abattoir pour être passée par mégarde en Serbie hors de l'Union Européenne avant de revenir dans son pays d'origine, aura finalement la vie sauve. Ont annoncé lundi les autorités vétérinaires bulgares à l'issue de tests favorables. Les analyses de laboratoire effectuées sur cette vache rousse, originaire de l'ouest du pays, d'où elle avait franchi la frontière avec la Serbie, sont négatives pour toutes les maladies testées, a fait savoir lundi l'Agence bulgare de sécurité des aliments. Elle ne sera pas abattue et retrouvera son troupeau d'ici la fin de la semaine, a confirmé à l'AFP Ekaterina Stoivlova, porte-parole de l'agence. Penka s'était offert une petite fugue le 12 mai dernier alors que son troupeau paissait près du village bulgare de Kopilovtsi. Ses pérégrinations l'avaient conduite jusqu'en Serbie, toute proche. Recueillie par un fermier serbe qui l'avait identifié grâce à son badge, elle avait été rendue 15 jours plus tard à son propriétaire. C'est là que les ennuis de Penka avaient commencé. Les règles européennes, particulièrement strictes en matière d'importation d'animaux vivants, exigeait que la vache dispose d'un certificat vétérinaire attestant sa parfaite santé avant son retour dans l'Union européenne. Faute d'un tel document, les autorités bulgares avaient exigé qu'elle soit abattue. Son propriétaire avait alors lancé un appel public pour la sauver et l'histoire de Penka avait fait le tour des médias européens et des réseaux sociaux. Plus de 25 000 personnes ont signé une pétition en ligne adressée aux institutions européennes. L'ancien Beatle lui-même, Paul McCartney, avait pris fait et cause pour le bovin sur les réseaux sociaux sous le hashtag Save Penka. L'affaire avait même été longuement évoquée lors d'un briefing quotidien de la Commission européenne. La vache a cependant passé cette période en quarantaine, loin de la pression médiatique. Ivan Aralampiev, son propriétaire, a confié son émotion lundi aux médias bulgares. « Je suis très reconnaissant envers tous ceux à l'autre bout du monde qui ont défendu mon pauvre animal. Vous n'avez aucune idée du stress que cela m'a causé, mais ça en valait la peine. » Ce modeste fermier a bien l'intention de récompenser la fugueuse avec du fourrage de luxe et beaucoup de caresses, maintenant qu'elle est devenue très spéciale pour la famille. Autre animal un peu moins imposant, celui-là, nous allons parler de rats. Et des rats qui sont un vrai problème à Paris, où les gens essaye de se mobiliser. Signale un rat.Paris. Le maire d'un arrondissement de Paris a lancé lundi une chasse aux rats sur Internet, appelant chaque citoyen concerné à dénoncer tout rongeur intrus. C'est le cas d'une crèche dont la cour est infestée de rats qui m'a convaincu qu'il fallait essayer autre chose, explique dans le quotidien Le Parisien Geoffroy Boulard, le maire du 17e arrondissement de Paris, qui s'affiche dans le journal en élégant costume cravate, tenant par la queue plusieurs rats morts du bout des doigts, les mains protégées de gants chirurgicaux. Il y a un enjeu de salubrité qui se joue là, surtout qu'avec l'arrivée des beaux jours, les signalements risquent d'être encore plus nombreux, prévient le maire. Vous le savez, les rats se multiplient dans Paris. La mairie de Paris ne semble pas avoir pris la mesure du problème, écrit l'élu sur la page d'ouverture du site internet mobile signalunrat.paris. Agissons dans le 17e arrondissement en signalant leur présence, ajoute-t-il, promettant aux habitants de ce quartier assez favorisé que chaque signalement sera transmis aux services centraux de la mairie de Paris. Les services centraux de la capitale ont la compétence en matière de dératisation, souligne M. Boulard, un maire de droite qui accuse le laxisme de la mairie centrale de Paris, tenue par la socialiste Anne Hidalgo. Parmi les dizaines de signalements qui s'affichaient déjà sur la carte du site internet, moins d'une journée après sa naissance, les résidents se plaignent de rats sur la pelouse du petit parc, d'un lycée infesté par les souris et les rats, ou encore de rongeurs se baladant tranquillement. Ils creusent des galeries dans mon garage et tous les bâtiments et reste lorsque j'approche, souligne un habitant. Depuis 3 ans, malgré les dératisations, nous vivons, nous mangeons et nous dormons avec des rongeurs. C'est l'enfer, personne ne fait rien, enrage un autre. Il y en a de plus en plus, avec des tailles énormes, urgence, écrit en lettres capitales un résident visiblement excédé. Selon les experts, il y a plus de rats à Paris que d'habitants. Ils sont pourtant déjà 2,2 millions. Le taux de rongeurs est ainsi de 1,75 par résident. La maire de Paris a lancé en mars 2017 un programme de dératisation de 1,5 million d'euros, déclarant « Les rongeurs ont fait leur retour, infestant les parcs et jardins ».
Put me in the ground. So put me in the ground. On vient d'entendre la formation néo-écossaise de Tom Fun Orchestra et tiré de leur premier album, c'était la pièce Throw Me to the Rats.
Ça réveille, en tout cas, ça a le mérite de réveiller. Eh bien, j'entendais les accents celtiques de cette musique. Je ne savais pas parier, si je devais parier sur l'Écosse ou l'Irlande. J'ai misé sur l'Écosse. J'ai bien fait, j'ai un article qui nous vient d'Écosse. 5 habitants rachètent leur petite île en Écosse. Ça s'est passé le mois dernier, début mai. La petite île d'Ulva, perle d'Écosse aux plages immaculées, a été rachetée par 5 de ses 6 habitants qui craignaient de la voir tomber entre les mains de Mania, venu de Russie ou du Moyen-Orient, a annoncé une organisation locale. Ulva avait été mise en vente en juillet dernier par le 6e habitant de l'île, membre d'une famille aristocratique à laquelle elle appartenait depuis des décennies. Ses 5 autres occupants, regroupés au sein d'une organisation locale, ont pu la racheter en profitant d'une loi octroyant aux communautés locales un droit de préemption. Mise en vente pour 4,25 millions de livres, soit environ 7,4 millions de dollars canadiens tout de même, l'île a été rachetée à un prix fixé par une évaluation indépendante commandée par le gouvernement écossais, indique dans un communiqué la petite organisation qui a pu réunir les fonds grâce à une subvention du gouvernement écossais et aux contributions de 500 personnes. Lors de sa mise en vente, le propriétaire, Jamie Howard, l'avait décrite comme l'une des plus belles îles privées d'Europe du Nord, attirant des manias étrangers, et les insulaires avaient alors craint d'être expulsés. Avec sa vue sur la montagne Benmore et la spectaculaire cascade East Forth de l'île voisine de Mull, Ulva est de fait un endroit idyllique. À son apogée, l'île comptait plus de 800 habitants. Son déclin a commencé au XVIIe siècle, lorsque les propriétaires terriens ont évincé en masse les agriculteurs des Highlands pour transformer leurs champs en pâturage pour moutons. Bon nombre sont alors partis pour l'Australie. Le plus célèbre fils d'Ulva, Lachlan Macquarie, fut le dernier gouverneur colonial de la Nouvelle-Galles du Sud. Désormais propriétaire de l'île, l'organisation s'est engagée à œuvrer pour son développement social et économique, et puis pour son repeuplement également. Ça ne vous aura sûrement pas échappé, cette fin de semaine a eu lieu le Grand Prix, il y avait des voitures partout. Mais le Grand Prix de quoi exactement? Est-ce que c'est le Grand Prix de Montréal ou le Grand Prix de Toronto? Il faudrait demander à Ferrari. Ferrari a bien mal paru mardi, utilisant une image du centre-ville de Toronto dans un gazouillis, un tweet, à propos du Grand Prix du Canada. Il a tout de même été vu plus de 57 000 fois à 20h. C'est un clip vidéo de 38 secondes qui commençait en titrant « Montréal, Canada » pendant qu'on voyait le lac Ontario et le centre-ville torontois, dont la tour du CN et le Rogers Centre. Ayant atteint les 1000 j'aime, le gazouillis figurait encore sur le compte Twitter de la Scuderia en soirée, mardi 8h après sa publication. Le Grand Prix du Canada a été présenté au circuit Gilles Villeneuve à Montréal. Ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas déménagé toute la ville, c'était bien ici. Autre gros appareil à moteur qui peut poser problème, l'avion. Et avec cette petite insolite qui mérite réflexion et qui mérite qu'on soit prudent à l'avenir. Une femme dit avoir reçu des excréments provenant d'un avion. Une balade en voiture s'est transformée en expérience éprouvante pour une femme qui dit avoir reçu dans les yeux des excréments humains qui seraient tombés d'un avion pour s'affaisser dans sa voiture qui avait le toit ouvert à Kelowna en Colombie-Britannique. Suzanne Allan était dans sa voiture avec son fils Travis Tweet alors qu'il revenait d'un dîner avec sa mère près de Peachland. lorsqu'une substance odorante est tombée sur eux, partout sur le véhicule. Les excréments semblaient provenir d'un avion qu'elle a vu lorsqu'elle s'est arrêtée à une lumière rouge. Elle a alors constaté que la voiture d'à côté d'elle, à côté d'elle, avait aussi été affectée. Elle a appelé l'aéroport de Kelowna pour leur rapporter l'incident. Une personne lui aurait dit que Transport Canada enquêterait sur l'événement. Le ministère a confirmé qu'il se penchait sur la possibilité que les déchets de salle de bain gelés soient tombés d'un avion. Dans un échange de messages Facebook, Madame Allen a reconnu qu'il s'agissait d'une histoire surréaliste. Tout ce que je veux dire aux gens, c'est que c'était épouvantable d'être couverte d'excréments et j'espère que ça n'arrivera pas à quiconque, a-t-elle écrit. Madame Allen a dit qu'elle a souffert de conjonctivite dans les deux yeux après un traitement antibiotique. Son œil droit est toujours sensible, a-t-elle soutenu. Transport Canada a indiqué que les avions avec des installations sanitaires à bord sont équipés d'un réservoir de retenue des eaux usées conçu pour être vidé dans des endroits prévus dans les aéroports.
Les hommes et tous les mêmes, macho mais cheap, bande mauviette infidèle, si prévisible, non je ne suis pas certaine, que tu le mérites, vous avez de la chance qu'on vous aime, dis-moi merci, rendez-vous au prochain règlement, rendez-vous sûrement aux prochaines règles. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous prochain règlement, rendez-vous sûrement aux prochaines règles. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Mais comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Mais pour les élever, il y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins, au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moi, je suis belle.
La dynamique formation Call Me Wayne qui reprenait tous les mêmes, cette pièce de Stromae.
Et rendez-vous, chante-t-il. Eh bien, il y a eu un rendez-vous de taille la semaine passée, ici au Canada, au Québec même. C'était le G7 qui a fait l'objet de moult articles, bien sûr, et photos, dont une qui a particulièrement marqué la presse. Trump face à Merkel et le reste du monde. Une photo du G7 devenue iconique. Un cliché pris lors du sommet du G7 au Canada est devenu viral. La même scène a été prise sous d'autres angles offrant différentes interprétations. Seul contre tous. Une photo prise lors du sommet du G7 résume à elle seule l'isolement de Donald Trump face au reste du monde. Elle montre le président américain assis, bras croisés, l'air narquois, encerclé par une dizaine de chefs d'État et de gouvernement, debout. Face à lui, Angela Merkel se détache clairement du groupe, grâce à sa lumière picturale et sa posture penchée en avant, main bien appuyée sur la table, l'air déterminé, prête à en découdre. La photo, diffusée par le gouvernement allemand, répond clairement à un objectif de communication en valorisant la chancelière. Donald, la prochaine fois que tu tweets une stupidité, on confisque ton téléphone compris, a ironisé sur Twitter l'ancien premier ministre belge Guy Verhofstadt. Manifestement très inspiré, ce dernier a aussi imaginé Angela Merkel lançant à Donald Trump « Dis-nous ce que Vladimir a sur toi, peut-être qu'on peut aider », en référence à l'enquête sur les éventuelles collusions entre les membres de la campagne de Donald Trump et les officiels russes. Le cliché pris par le photographe allemand Jesko Denzel est salué pour ses qualités picturales. Des internautes se sont amusés à le transformer en tableau. La photo fait aussi l'objet de détournements sur un mode plus humoristique. Angela Merkel, maîtresse du jeu ? En réalité, tout dépend du point de vue. D'un pays à l'autre, la scène n'a pas été immortalisée de la même manière. Chaque délégation s'est appliquée à envoyer sa version la plus flatteuse pour son représentant politique. L'Élysée a ainsi diffusé sa propre photo, où la scène est immortalisée sous un autre angle. Cette fois, c'est Emmanuel Macron qui est au centre des discussions, l'air pénétré sous l'œil attentif de ses congénères. Angela Merkel apparaît à peine, le visage masqué par une silhouette sombre au premier plan. Une autre version encore, en noir et blanc, montre le président tout en sourcils froncés à côté de la chancelière, tous deux penchés en avant. Ambiance les tontons flingueurs, face à la longue mèche de Donald Trump, vue de dos. Le Canada a offert une autre perspective encore, avec le premier ministre Justin Trudeau, debout, une main nonchalamment posée sur une chaise à côté d'un Donald Trump, pensif et renfrogné. Le Japon s'est lui aussi appliqué à valoriser son premier ministre Shinzo Abe, en le montrant main posée sur la table, regard tourné vers le président américain, qui semble rouge de colère. La Maison-Blanche a riposté à son tour en diffusant une photo où Donald Trump apparaît toujours assis mais souriant et comme entouré par une foule de courtisans. Une autre version en noir et blanc le montre au centre du jeu. Pour l'entourage du milliardaire américain, l'image de Donald Trump restant impassible, bras croisés, traduit la fermeté du héros de l'Amérique d'abord. L'Italie a bien essayé d'entrer dans la course en diffusant une photo du nouveau président du Conseil italien, Giuseppe Conte, au premier plan, affairé en train de lire un document, mais la qualité médiocre du cliché, sombre et flou, fait tomber l'effet à plat. Le journaliste américain Fabian Reibold a répertorié la plupart de ces différentes perspectives. La séquence a en tout cas synthétisé plus que tous les discours l'état du monde fracturé après le fiasco du sommet des pays industrialisés. Image, image. Nous allons y aller avec quelques petites brèves dans la série des questions existentielles que j'ai encore sous la main. Pourquoi écrit-on de gauche à droite ? Eh bien, j'y réponds. Cela vient des scribes mésopotamiens, lors de l'invention de l'écriture il y a 5000 ans. Ils utilisaient des tablettes d'argile ou de bois recouvertes de cire qu'ils creusaient à l'aide d'un poinçon. Les premiers écrivains étaient forcés d'écrire de gauche à droite, sinon leurs mains étaient crispées au-dessus du texte et le cachaient. Cette technique est passée chez les Phéniciens, puis chez les Grecs et chez les Romains. Notre écriture en dérive directement. L'arabe et l'hébreu s'écrivent en revanche de droite à gauche, car ils ont gardé la tradition des scribes égyptiens. Et une autre petite brève, les oiseaux dorment-ils en volant ? Eh bien oui, en laissant d'un côté de leur cerveau dormir à la fois. Pour la toute première fois, les scientifiques ont récemment observé des oiseaux sommeillant en plein vol. Des chercheurs de l'Institut Max Planck ont suivi l'activité cérébrale d'oiseaux marins connus pour leur capacité de voler durant 4 semaines de suite. Le phénomène du repos de la moitié de cerveau expliquerait comment les oiseaux peuvent voler durant des jours ou même des semaines sans descendre une seule fois sur la terre ferme. Il est temps de prendre une petite pause, endormez une moitié de cerveau si vous le voulez, mais soyez bien réveillés, revenez avec nous dans quelques minutes, j'ai encore plein d'articles étonnants et intéressants pour vous, à tout de suite.
Benjamin Duterte, alias Ben l'Oncle Soul, qui reprenait ici de White Stripes, c'est la pièce Seven Nation Army.
Seven Nation pour le G7, c'était voulu. Mais oui, bien sûr, comment puis-je hésiter? Eh bien, le G7, on en reparle un petit peu avec cet article. Il n'y avait pas seulement que des chefs d'État, il y avait aussi un invité un peu spécial, un moine japonais, venu pour le G7, attire les regards à la Malbaie. Les voitures ralentissent pour le prendre en photo, le saluer ou le klaxonner alors qu'il déambule le long de la route qui jouxte la rivière Malbaie, puis le fleuve Saint-Laurent. Le moine bouddhiste japonais Toyoshige Segugushi est devenu une petite célébrité à la Malbaie. Tambourinant sur un instrument traditionnel, il marchait d'un pas rapide mercredi après-midi, et ce, même s'il vient d'effectuer le trajet de quelques 400 km entre Montréal et la petite ville charlevoisienne à la marche. Parti du Japon, il a atterri à Toronto, puis a pris un autocar jusqu'à Montréal. Il est venu à la Malbaie spécialement pour le sommet du G7 afin d'attirer l'attention des dirigeants du groupe des 7 en faveur de l'interdiction des armes nucléaires, explique-t-il dans un anglais hésitant. Pour mieux se faire comprendre, il pointe le drap tendu sur un bâton de bois sur lequel ce message est écrit en plusieurs langues. Vise-t-il plus particulièrement le président des États-Unis, Donald Trump, qui doit rencontrer le 12 juin prochain, c'est en ce moment, aujourd'hui, à Singapour, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ? Le moine bouddhiste ne répond pas, sourit et presse le pas en prononçant à répétition « City Hall, City Hall ». Il cherche l'hôtel de ville. C'est là que l'attendait le maire de la Malbaie, Michel Couturier, pour une rencontre en fin d'après-midi, comme l'a rapporté une station de radio locale. Selon CIO-FM, le premier magistrat a fait signer aux visiteurs japonais le livre d'or de la Malbaie et le moine bouddhiste a discuté avec un prêtre. Ambiance zen dans le studio, ça fait du bien aussi de temps en temps. Allez, une dernière petite article sur le G7. Après, promis, on passe à autre chose. En fait, c'est pas sur le G7, mais c'est sur Monsieur Donald Trump qui, au G7 comme à d'autres endroits, a la fâcheuse habitude de déchirer les documents. On l'a souvent vu faire pour effacer ce qui a pu être fait avant. Eh bien, c'est fort, c'est une belle symbolique, croit-il, mais c'est aussi un cauchemar pour les archivistes. Le président américain Donald Trump a l'habitude de déchirer les documents qu'il vient de lire, forçant les archivistes de la Maison-Blanche à recoller des morceaux, parfois aussi petits que des confettis, selon le site d'information Politico. C'est la chose la plus folle que j'ai jamais vue. Il déchirait les papiers en tout petits bouts, a raconté Solomon Lartey, un ancien employé de la Maison-Blanche chargé de l'archivage des documents pendant les 5 premiers mois de la présidence Trump. Une loi ordonne que tout document consulté par le président américain, lettres, courriels, brefages, soient conservés et envoyés aux archives nationales. L'article de Politico ne suggère pas que le septuagénaire procède ainsi pour faire disparaître des documents, mais plutôt qu'il s'agit d'une vieille habitude chez l'homme d'affaires, un système d'archivage à sa manière. Mais la manie de Donald Trump de déchirer des documents qu'il vient de lire, parfois juste en deux, mais parfois en morceaux si petits qu'ils ressemblaient à des confettis, a largement compliqué la tâche déjà des archivistes dès son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2017. Selon Solomon Lartey, licencié en mars, des employés de la Maison-Blanche devaient récupérer les bouts de documents dans le bureau ovale ainsi qu'à la résidence privée du président, à l'étage, pour les livrer aux archivistes, comme un puzzle à reconstituer. Tout le bureau chargé des registres devait alors scotcher les documents, a-t-il expliqué à Politico. Parmi les documents qu'il a reconstitués, des articles de journaux annotés par Donald Trump, des invitations et des lettres d'élus. C'est la première fois en 20 ans de service que Reginald Young, un autre ancien employé du département des archives à la Maison-Blanche, congédié en avril, dit avoir vu une telle pratique. J'ai regardé mon directeur et lui ai dit « Vous êtes sérieux ? On gagne plus de 60 000 dollars par an, on devrait faire des choses beaucoup plus importantes que ça », a-t-il raconté à Politico. J'avais l'impression de faire le travail le plus ingrat qu'on ait pu me demander, à moins de devoir vider les poubelles. Allez, partons en Chine à présent, parlons de complètement autre chose. Un village avalé par la végétation. C'est presque une bonne nouvelle, ça. En Chine, le développement économique effréné a fait battre la nature en retraite. Mais dans un petit village insulaire au large de Shanghai, la végétation verdoyante a regagné le territoire perdu de façon spectaculaire. Le bourg de Utuan abritait jadis une prospère communauté de 2000 pêcheurs sur l'île de Shengshan. Désormais abandonnée, rues et maisons de briques sont livrées en pâture, aux herbes folles et aux plantes rampantes qui les recouvrent d'une impressionnante couverture émeraude. La seule chose qui perturbe aujourd'hui la reconquête du village par cette végétation luxuriante est la foule de touristes. Dans cette localité insulaire située à 140 km de Shanghai, ils viennent y admirer le cadre féerique et les panoramas sur la mer de Chine orientale. Utuwan a été fondée en 1950 et a prospéré grâce à la pêche, comptant jusqu'à 3000 habitants. Mais son port s'est, au fil des ans, révélé trop petit pour accueillir les gros navires qui ont fini par bouder le village. Résultat, au milieu des années 90, il était déjà en grande partie abandonné. De grandes vagues fouettent la côte à certaines périodes de l'année, rendant difficile l'accostage de petites embarcations. La seule manière de relier Utuwan au reste de l'île est d'effectuer une randonnée le long d'un sentier sinueux. Quand les femmes accouchaient, quand les enfants allaient à l'école, quand les personnes âgées nécessitaient des soins, ils n'avaient d'autre choix que de prendre ce chemin, raconte Madame Wang, une ancienne habitante âgée d'une quarantaine d'années. Elle travaille aujourd'hui dans le village abandonné où elle est agente de sécurité et veille sur les touristes. C'était tellement amusant quand on était jeune et qu'on allait à la plage pour ramasser des fruits de mer, se souvient-elle avec nostalgie. Mais une fois que les gens ont commencé à avoir plus d'argent, ils ont peu à peu déménagé en ville. Ces dernières années, les touristes adeptes de selfie pouvaient déambuler librement dans Utuwan. Mais depuis 2017, les autorités imposent l'achat d'un billet d'entrée de 50 yuan, soit environ 10 dollars canadiens, et les visiteurs sont contraints de suivre un parcours balisé dans ce village figé dans le temps. Voilà, quand la nature récupère ses droits et recouvre ce que l'homme a fait.
Je perds mon cœur.
vient d'entendre Safia Nolin avec le premier extrait de son prochain album qui paraîtra l'automne prochain, album qui s'intitule Dans le noir, pièce qui s'intitule Les chemins, Safia Nolin, qui sera de passage dimanche prochain lors de la soirée de clôture des Francopholies. Il fera partie du grand événement Belle, la musique Stone, hommage à Plamondon, avec entre autres Ariane Moffat, Betty Bonifaci, Berise, Catherine Major, Claude Pelgag et beaucoup d'autres artistes.
Merci pour toutes ces informations précises. Partons à présent à Matane pour des chips de crevettes. Ça, c'est relativement banal, mais des chips de crevettes à partir de résidus. Vous aimez les crevettes nordiques, aussi appelées crevettes de Matane ? Eh bien, un chercheur a créé une recette de chips à partir de résidus de crevettes qui sortent des usines de transformation gaspésienne et qui partent pour l'enfouissement. L'idée de faire ce genre de croustille a germé dans la tête de Paul Rességuier, qui en a fait l'objet de son mémoire de maîtrise en gestion des ressources maritimes à l'Université du Québec à Rimouski. Le scientifique a notamment mené sa recherche avec la collaboration du Centre Mérinoff et du créneau Accor du Bassin-Laurent. Monsieur Rességuier croit que ce type de produit répond aux tendances de grignotage de plus en plus en vogue chez les consommateurs. Le chercheur a concentré ses travaux chez Marinard de Rivière-aux-Renards et chez Crevette du Nord-Atlantique de Lens-aux-Griffons, deux usines de transformation de produits marins situées en Gaspésie. Les 30% de ce qui entre dans l'usine sont valorisés, a constaté Paul Rességuier. Le reste, ça les intéresse peu. La recherche a démontré aux gestionnaires des usines de transformation que le coproduit a une valeur commerciale et marchande. À l'issue de discussions avec différents partenaires qui l'ont aiguillé dans ses travaux, il en est venu à la conclusion que la différence entre un coproduit et un déchet est relative à la volonté du gestionnaire de l'usine de transformation. Selon lui, ces chips aux crevettes possèdent des propriétés organoleptiques intéressantes. Le produit est riche en fibres alimentaires et sa proportion de protéines est de 15,3%. La demande croissante pour des produits alimentaires locaux et du terroir, gage de durabilité et de qualité selon le consommateur, est aussi une vague porteuse sur laquelle surfe notre produit, conclut l'universitaire dans son mémoire. Il existe déjà, sur le marché québécois, des croustilles à saveur de crevettes, direz-vous. Appelées Keropok. Elles proviennent la plupart du temps de Malaisie. Ces chips sont composés d'un mélange d'amidon, de tapioca et de protéines. Ce qu'on trouve dans le commerce, il y a 5 à 6% de crevettes entières ou au mieux des carapaces de crevettes d'élevage asiatique, explique le scientifique. La plupart du temps, ce sont juste des arômes. Ces gros producteurs asiatiques ne compétitionnent pas du côté de la qualité et de la santé. Le concepteur de croustilles aux crevettes nordiques a fait goûter le produit au chef de la réserve bistrot de Rimouski, Julien Bartolucci. Il les a trouvées très bonnes, se réjouit-il. Paul Rességuier espère maintenant qu'un entrepreneur sera intéressé à se lancer dans la production de ces chips aux crevettes destinées aux consommateurs. Il espère aussi que les gestionnaires des usines de transformation puissent prendre un tournant en valorisant leurs résidus. Il donne l'exemple des producteurs de bois du Québec qui, pour survivre à la crise forestière, se sont tournés vers la production de bûches énergétiques et de granules. Paul Rességuier est maintenant consultant pour le bureau d'études Odyssée Développement en France, spécialisé dans le domaine de l'économie maritime. Il participe à un projet de valorisation des coquilles d'huîtres. Ah, une vraie bonne nouvelle qui va égayer votre journée. Nouvelle d'importance également. 157 nouvelles émoticônes disponibles. Roux, super-héros, kangourou, 157 nouvelles émoticônes ont été mises en ligne mardi 5 juin dans la bibliothèque d'émoticônes du standard informatique coordonnée par le consortium Unicode. Cette organisation non lucrative standardise les lettres et caractères sur ordinateur et smartphone pour que chaque appareil puisse lire un caractère envoyé par un autre. Annoncée en février, la 11e version d'Unicode propose de nouveaux symboles représentant les animaux, lama, kangourou, homard, des coiffures, cheveux roux, blancs, bouclés, chauves, des objets, boussole, skate, pétard, rouleau de papier toilette, etc. Il y en a pour tous les goûts. Le site Emojipedia propose dans une vidéo YouTube une présentation des principales nouveautés de cette 11e mise à jour. Attention, l'apparition de ces nouveaux emojis sur les téléphones intelligents et sur les réseaux sociaux prendra du temps. Les systèmes et plateformes mobiles profitent généralement de leur mise à jour pour y insérer ces nouveaux symboles. Selon le journal du Geek, ces modifications devraient apparaître entre septembre et décembre pour Google et Apple, et entre janvier et février 2019 pour Samsung. Chaque plateforme est libre d'adapter les visuels de ces nouvelles émoticônes selon ses codes graphiques. La 12e mise à jour est déjà en préparation. Parmi les nouveaux emojis proposés par les internautes à Unicode, on trouve un masque de plongée, un flamant rose, une gaufre ou encore un cœur blanc. Ces propositions seront soumises au consortium Unicode qui les acceptera ou les rejettera. L'organisation devrait trancher d'ici à la fin de l'année 2018. Le monde va déjà mieux.
Le groupe Death Cab for Cutie, la pièce Codes and Keys.
Un petit article qui nous vient des États-Unis, pays fournisseur officiel de la plupart de mes chroniques. Oui, les questions, alors non pas, il n'y a pas eu de victimes, rassurez-vous. Question non pas d'armes à feu, mais carrément de véhicules de l'armée cette fois-ci. Un homme vole un blindé aux États-Unis. Un soldat qui avait volé un blindé sur une base de la garde nationale en Virginie a finalement été arrêté mardi au terme d'une poursuite policière qui a duré plus d'une centaine de kilomètres. Un porte-parole de la police a indiqué à la presse locale que le véhicule, qui est muni de chenilles, a atteint une vitesse de 70 km/h. Incapable d'immobiliser le blindé, vous vous en doutez, la police n'a eu d'autre choix que de l'escorter devant et derrière jusqu'à ce que le conducteur décide de s'arrêter près de l'hôtel de ville de Richmond. Le militaire de 29 ans, Joshua Philippe Yabout, était sous l'influence de la drogue, selon la police. Des témoins racontent que le soldat a été très rapidement maîtrisé par les policiers quand il a bien voulu sortir du véhicule. Deux petites questions existentielles pour terminer cette émission. Pourquoi n'y a-t-il pas de pile B ? Afin de faire fonctionner nos multiples gadgets électroniques, lampes de poche, télécommandes et véhicules, il existe toute une gamme de piles. AA, AAA, C et D. Mais pas de B. Cette dernière a tout simplement disparu du marché car elle n'était plus utile. Au cours de la Première Guerre mondiale, les grands manufacturiers se sont réunis pour normaliser la taille et la puissance des piles. Vers 1924, ils ont rencontré les différents gouvernements pour trouver un système de noms pour chaque catégorie. Ils ont choisi l'alphabet. Les piles qui avaient des petites cellules ou une cellule unique ont été baptisées A, et celles qui en avaient de plus grandes B, C et D. Quand les piles encore plus petites sont apparues, on les a nommées AA et AAA. Celles-ci sont devenues très populaires. Quant aux C et D, elles ont réussi à trouver leur place dans le monde de l'électronique. Les piles A et B existent encore quelque part dans le monde, mais selon l'entreprise Energizer, elles sont si rares que d'ici quelques années, elles auront complètement disparu. Il fait beau, vous êtes sûrement dans les parcs de temps en temps et il peut y avoir des coccinelles. Mais à quoi servent les taches de la coccinelle ? Les taches sur le dos de la coccinelle servent à effrayer les prédateurs. De plus, les coccinelles possèdent des substances toxiques, les alcaloïdes, pour se protéger. Un oiseau qui y aura goûté sera rebuté par leur goût horrible. Il saura par la suite reconnaître cet insecte par sa couleur et ses motifs. Certaines espèces de coccinelles n'ont cependant pas d'alcaloïdes. Leurs motifs et leurs couleurs leur servent alors de camouflage. Ce qui conclut cette nouvelle émission, j'espère que vous avez apprécié. Le temps pour moi, eh bien, de remercier les États-Unis de fournir autant de nouvelles insolites et de remercier surtout également Jean-Sébastien Laliberté pour la mise en onde et les choix musicaux. Dans quelques instants, retrouvez Hélène Denis pour le quotidien des quotidiens. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, je serai bien là pour la dernière émission du printemps. On sera là l'été aussi également. Je serai absent de temps en temps, mais la plupart de l'été, je serai là. À la semaine.